Marc 11, chapitre 1 à 11. Alors ce texte, juste un mot avant de le lire, il est traditionnellement lu et commenté plutôt le dimanche des Rameaux. Et c'est vrai que nous avons un tout petit peu hésité parce que, idéalement, ça aurait été mieux le dimanche des Rameaux, mais nous avons cette série dans l'évangile de Marc, et ben voilà, les dates ne collaient pas tout à fait, et nous ne sommes pas à ce point liturgiquement pointilleux que de vouloir absolument prêcher ce texte le jour des rameaux. Donc vous m'excuserez pour cette petite avance de quelques semaines. Mais je lis donc Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père ! Hosanna ! Dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Amen. Chaque mois de juillet a lieu dans notre pays l'un des événements sportifs les plus suivis au monde, le Tour de France. Et chaque année, le tracé de ce tour change. Et notamment le départ. Alors, chaque année, il y a quand même des choses en commun. Il faut de la plaine, il faut de la montagne, mais le tracé évolue. Et le départ, ça change d'année en année. On a même vu des Tours de France qui commençaient en Angleterre. C'est quand même un comble. Mais il y a un point commun à chaque Tour de France. C'est que tous, sans exception, se terminent au même endroit, à quelques kilomètres d'ici, à Paris, bien sûr, sur l'avenue des Champs-Élysées, qui n'est pas en très bon état depuis hier. Pourquoi cette constante ? Pourquoi ne pas terminer une année, je ne sais pas, dans le vieux port de Marseille, ou bien sur les plages du débarquement, ou à Disneyland Paris ? Eh bien, parce que la capitale est symbolique. Une capitale incarne un pays d'une manière particulière. C'est aussi le sens d'une capitale. Alors, le Tour de France se termine, eh bien, sur la plus belle avenue de la capitale française. Et personne n'imagine faire les choses autrement. De manière un tout petit peu analogue, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, la capitale, dans le récit de Marc, eh bien, c'est un moment clé. C'est un moment clé. Et nous nous trouvons dans l'évangile de Marc au début de ce qu'on appelle traditionnellement la semaine sainte, la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus avant donc sa mort et sa résurrection. En recoupant les indications de temps, il semble que nous soyons au premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Dans moins d'une semaine, le vendredi, Jésus sera crucifié. Et puis dans une semaine exactement, le dimanche suivant, il ressuscitera. Mais comme les trois autres évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, Marc ne va pas hésiter à prendre le temps de décrire en détail cette dernière semaine, au point d'y consacrer 6 chapitres sur les 16 que contiennent son évangile. Et on a le même genre de répartition dans les autres évangiles. Dans l'évangile de Jean, c'est même à peu près la moitié de l'évangile qui est consacré à la dernière semaine. Parce que pour Marc, comme pour les autres auteurs des évangiles, cette dernière semaine qui conduit à la croix et puis au tombeau vide, elle est absolument essentielle, elle est décisive. Et en parler en détail, c'est important pour s'assurer que ses lecteurs comprennent bien les réponses aux deux questions clés que Marc en particulier pose dans son évangile. Qui est Jésus ? Et pourquoi est-il venu ? Qui est Jésus ? Et pourquoi est-il venu ? Et on va garder à l'esprit ces deux questions. Encore une fois, c'est des questions qui sont très présentes dans tout l'évangile de Marc. Et on va les garder à l'esprit en parcourant le texte de ce matin. Qui est Jésus? Pourquoi est-il venu? Et je vous propose de retenir une petite phrase pour résumer le message de ces 11 versets. C'était annoncé, le roi fait son entrée. Et on va la diviser en deux, commencer donc par « c'était annoncé ». Alors, resituons un petit peu le contexte. Jésus, on l'a déjà vu, pour ceux qui ont suivi un peu ces dernières semaines dans l'évangile de Marc, il fait route vers Jérusalem depuis la Galilée, au nord d'Israël. On a vu la semaine dernière qu'il est passé par Jéricho, où il a guéri l'aveugle Bartimée. Au début de notre texte, Jésus et ses disciples arrivent donc tout près de la capitale. À quelques kilomètres de la ville se trouve le mont des Oliviers, et sur le flanc de ce mont se trouvaient en tout cas, il y a des équivalents aujourd'hui, les villages de Béthanie et de Bethphagée. On sait grâce à l'évangile de Jean que Jésus a séjourné à Béthanie à plusieurs reprises, et notamment chez Lazare, Marthe et Marie. Et c'est vraisemblablement peu après ce séjour que Jésus envoie deux de ses disciples, nous dit le verset 1, dans l'un des villages environnants. Curieusement, Marc ne précise pas lequel des deux, mais ce n'est pas grave. Dans l'un de ces villages, il les envoie avec ses instructions, verset 2, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon, un petit âne, hein, attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ou, selon une autre traduction possible, « Et à l'instant, je lui renverrai. » Peu importe. Alors on me taquine parfois parce que j'aime donner des instructions très précises et parfois un peu trop. Quand je décris à quelqu'un comment venir 72 rue de Sèvres pour la première fois, j'ai tendance à dire « Métro du Roc, ligne 13 ou 10, prendre la sortie 2 rue de Sèvres, rester sur le même côté de la rue à peu près 200-250 mètres sur la gauche, entre un fleuriste et une boulangerie, vous verrez une cour, tournez la tête, etc. » Alors que la plupart des gens se contenteraient sans doute de donner l'adresse, éventuellement le métro. Mon épouse notamment me taquine régulièrement là-dessus. Eh bien, il faut reconnaître que Jésus n'hésite pas à donner tous les petits détails dans ses instructions ici, ça me conforte un peu. Mais plus sérieusement, faut-il comprendre ici que Jésus, en tant que fils de Dieu, manifeste sa préscience et prédit prophétiquement la scène qui va arriver? C'est possible. Ou faut-il simplement comprendre que Jésus a organisé les choses à l'avance, qu'il s'est arrangé avec le propriétaire de l'ânon? On sait qu'il est déjà allé à Jérusalem. Difficile d'être certain, et ce n'est pas décisif. Mais quoi qu'il en soit, on est frappé par la maîtrise de la situation dont fait preuve Jésus. Tout est prévu. Il va entrer à Jérusalem et il va le faire de façon mémorable. Or, rappelons que la situation est très tendue. Jésus a été à plusieurs reprises recherché par les autorités. Il a déjà annoncé à ses disciples à trois reprises qu'il allait être arrêté et mourir sur la croix. Donc à première vue, Jésus aurait tout intérêt à rester incognito. Mais au lieu de cela, il va entrer de façon totalement publique dans la ville où l'attendent ses persécuteurs. Pourquoi? Eh bien parce que pour Jésus, et pour Marc qui raconte l'histoire, c'était annoncé, c'était prévu. Jésus n'est pas venu pour éviter le danger. Il est venu pour accomplir les projets de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que les deux questions clés dans cet évangile sont « Qui est Jésus ?» et « Pourquoi Jésus est-il venu ?» Eh bien, Jésus connaît parfaitement la réponse à ces deux questions. Et notre texte constitue un tournant dans l'évangile de Marc parce que ce que les spécialistes appellent souvent le secret messianique, ce mystère qui entoure un peu l'identité de Jésus, qui va révéler progressivement qui il est, et que Jésus lui-même semble parfois un peu entretenir, n'allez dire à personne ce que vous avez vu, ne dis à personne que tu as été guéri, eh bien ce mystère est en train d'être complètement levé. Jésus a choisi le moment, et là, il va rentrer dans la ville au grand jour. Jésus, on le voit, a voulu révéler son identité progressivement. Les miracles de Jésus n'avaient pas pour but de rassembler le plus de monde possible, mais de démontrer indice après indice la vérité sur sa personne. Et là, dans l'épisode d'aujourd'hui, les indices ne chuchotent plus, ils crient. Le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi héritier de David, le roi venu de Dieu lui-même, le Messie, et il l'avait écrit en ces termes, le prophète Zacharie, « Réjouis-toi, fille de Sion, Zacharie 9, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, verset 9. Marc, contrairement à Matthieu, ne cite pas ce texte. Il ne le cite même pas, il estimait sans doute qu'il n'en avait même pas besoin tant l'allusion biblique est limpide. En entrant à Jérusalem, la fille de Sion, c'était ainsi entre autres qu'elle était surnommée, sur le dos d'un ânon, et bien de façon incontestable, Jésus se présente comme le roi annoncé par les prophètes. Plus possible d'en douter. Et dans ce petit texte, on voit plusieurs pièce du puzzle biblique se mettre en place. Le roi sauveur et même le roi Dieu, selon certains textes mystérieux de l'Ancien Testament, le roi qui vient au nom de Dieu et qui incarne Dieu lui-même, semble déjà suggérer certains textes, eh bien ce roi entre dans Jérusalem. Psaume 2, psaume 149, entre autres. Il est le fils de David, le libérateur, celui qui vient au nom du Seigneur, de Samuel 7. Psaume 110, psaume 118. Il est le roi qui vient, dans la descendance de David, nous rappelle le texte, inaugurer un nouveau règne de paix, Ésaïe 9, Michée 4, etc. Et pourtant, il se présente avec humilité et simplicité, monté sur un simple âne, Zacharie 9, 9. C'était écrit, c'était annoncé. Jésus s'inscrit dans une révélation biblique qui a commencé dès le début de la Genèse et qui traverse tout l'Ancien Testament pour nous amener à ce moment. Et Jésus, il faut bien comprendre, ne se contente pas de faire écho à ces annonces bibliques, il les accomplit. Il en révèle le sens. Il est en fait la clé de lecture de toute la révélation de Dieu. Et d'autres textes du Nouveau Testament nous disent très explicitement cela. Jésus est la clé de lecture de toute la Bible. Et c'est un rappel important pour nous. La tentation est grande quand on lit la Bible, de la lire comme un livre inspirant, avec des histoires qui nous boostent spirituellement, ou comme une collection d'écrits et de récits spirituels qui vont un peu dans tous les sens. Et même si on ne croit pas cela et qu'on dira « mais non, c'est la parole que Dieu a révélée à son peuple, etc. », eh bien souvent on lit la Bible comme si on croyait cela, en picorant ici et là pour essayer de glaner tel encouragement, telle leçon de vie. Alors je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, ou moi-même, mais plutôt pour nous inviter à lire la Bible autrement. Bien sûr que la Bible encourage, bien sûr que la Bible nous aide dans la vie de tous les jours, parce que c'est la parole vivante de Dieu, mais elle le fait avant tout en nous révélant Jésus-Christ et en nous appelant à le suivre. La Bible, dans son immense diversité, a un fil conducteur, une histoire que Dieu nous révèle. Et au centre de cette histoire, il y a Jésus-Christ. Et comprendre cela, c'est découvrir la Bible sous un jour nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher partout des allusions cachées à Jésus, dans l'Ancien Testament par exemple. Mais ça veut dire en revanche qu'en lisant la Bible, on va garder à l'esprit ce grand récit. En lisant les livres de la loi, on va prendre conscience de l'échec de l'homme à obéir à cette loi, de notre propre échec à obéir à cette loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui peut prétendre vivre cela ? Et du besoin que nous avons de Jésus pour nous offrir le pardon de Dieu. Parce que nous sommes pécheurs et que nos cœurs sont divisés et impurs. En lisant les livres de sagesse, on va prendre conscience de notre besoin de Jésus pour connaître le Créateur de toutes choses. Celui qui donne du sens et qui seul peut donner du sens. On va vouloir accéder à la sagesse qui vient de lui et comprendre que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons dans le monde. Et c'est Jésus qui nous ouvre la porte vers la connaissance personnelle et intime du Créateur. En lisant les psaumes, on va entre autres chercher en Jésus celui qui nous remet sur pied dans nos épreuves et devant notre péché et qui nous permet d'adorer Dieu à nouveau. Le cœur rassuré par la grâce de Dieu. En lisant les prophètes, on va comprendre qu'au-delà de toutes les interventions de Dieu dans l'histoire, et dans l'histoire d'Israël notamment, eh bien nous avons tous besoin d'une délivrance plus fondamentale, plus universelle. et on va aspirer à un monde nouveau, débarrassé du mal, marqué par la paix. Et on va comprendre que seul Jésus peut nous offrir cela. Et puis en lisant le Nouveau Testament, on va comprendre que, pour citer 2 Corinthiens 1:20, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et que tous les hommes, toutes les femmes sont appelés à saisir une vie nouvelle par lui. Donc en montant sur ce petit âne, ça paraît anecdotique, mais là Jésus ne laisse plus de place au doute. Il s'inscrit dans le récit biblique, il est venu accomplir les projets de Dieu, et ce sont des projets qui passent par Jérusalem. Mais contrairement à ce que pensait sans doute une partie, voire la plupart de la foule qui l'acclamait, ce n'est pas le triomphe ni le pouvoir humain qui attend Jésus à Jérusalem, mais c'est la croix. Et ça nous amène au second point. Le roi fait son entrée. Traditionnellement, cet épisode est désigné par l'expression « l'entrée triomphale de Jésus ». En réalité, cette expression n'est pas très juste, n'est pas la plus heureuse, parce qu'elle donne l'impression que Jésus est entré dans une ville en liesse qui n'attendait que lui. Et on est stupéfait d'apprendre que moins d'une semaine plus tard, la même foule aurait demandé à grands cris la crucifixion de Jésus. Alors c'est clair que l'homme est inconstant et capable de changer d'attitude rapidement, et pour peu de choses. Mais si on y regarde de plus près au verset 9, ce ne sont pas tant les gens de Jérusalem qui accueillent Jésus que les pèlerins qui l'accompagnent depuis la Galilée qui l'acclament. Verset 9, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» etc. » Et Luc précise même dans son évangile « La foule des disciples acclamait Jésus. » Jésus vient à Jérusalem entouré d'une foule dont il a déjà été question au chapitre 10 à plusieurs reprises et qui semble constituée d'une part des disciples de Jésus et puis d'autre part plus généralement de pèlerins galiléens qui montaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et on peut supposer que parmi, et on a des indications, des indices même, que parmi ces pèlerins, eh bien certains étaient devenus disciples. Ils avaient assisté au miracle de Jésus, entendu son enseignement. D'autres étaient sans doute plus ou moins sympathisants et fiers de venir avec leurs Galiléens, leurs compatriotes, Jésus de Nazareth. Et ce sont ces pèlerins galiléens qui, principalement, acclament Jésus plutôt que les habitants de Jérusalem eux-mêmes. Ceux qui réclameront sa crucifixion quelques jours plus tard semblent être plutôt des membres de l'élite religieuse de Jérusalem. Cela dit, l'identité précise de la foule n'est pas le point le plus important ici. Ce qui doit retenir notre attention, c'est le fait que Jésus est acclamé comme roi. Verset 8, « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. » Alors les traditions ont changé. Hein. Si quelqu'un aujourd'hui voulait mettre ses vêtements sur la route juste avant le passage du président, il serait sans doute placé en garde à vue ou quelque chose comme ça. L'équivalent serait plutôt dans notre contexte le fait de dérouler le tapis rouge, un signe d'honneur. Jésus est acclamé comme roi, et la foule va plus loin encore, en voyant en lui, en tout cas en entrevoyant en lui, le roi avec un grand R, le Messie annoncé. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna est un mot qui signifie en hébreu « sauve-nous » et qui est tiré du psaume 118, verset 25. Éternel, accorde-nous le salut, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. En criant « sauve-nous », la foule ne croyait pas si bien dire, sans doute. Les disciples ou sympathisants de Jésus pensaient-ils vraiment à leur besoin fondamental, existentiel, de réconciliation avec Dieu ? Ou pensaient-ils à une délivrance politique du joug romain ? Au minimum, on est en droit de se poser la question. On voit bien que les disciples n'ont pas encore tout compris, et Jean, dans son récit de ce même événement, au chapitre 12 de son évangile, nous dira que c'est seulement après la résurrection de Jésus que les disciples ont compris vraiment la portée de cet épisode. Jésus est effectivement entré à Jérusalem pour sauver. Donc la foule a raison de dire « Viens, sauve-nous !» Mais Jésus le fera, les sauvera non pas par un triomphe, mais au contraire, par l'humiliation de la croix. Stupéfiant mystère au cœur de notre foi. Jésus nous sauve non pas par un triomphe, mais par l'humiliation de la croix, qui certes en définitive est un triomphe, mais qui, de façon visible, était tout sauf cela à ce moment-là. Jésus entre à Jérusalem non pas pour y être acclamé, mais pour y être crucifié. Et il l'a dit très récemment, chapitre 10, verset 45, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le texte de Zacharie, qui est en arrière-plan de ce texte, et qu'on a cité tout à l'heure, nous donne déjà un petit indice de cela, en nous présentant le roi sauveur comme venant humblement monter sur un âne, pas sur un grand cheval blanc, comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, grand cheval blanc, pas comme ça, mais simplement sur un âne. Non pas en triomphateur, mais en serviteur, venu simplement pour faire la volonté de Dieu. C'est un autre prophète, Ésaïe, qui va développer cette annonce d'un roi humble. Le roi promis va être un serviteur qui prendra sur lui la condamnation de Dieu contre les péchés des hommes. Ésaïe 53. Il mourra à la place des pécheurs pour que les pécheurs soient pardonnés. Voilà pourquoi Jésus entre à Jérusalem. Et voilà pourquoi on ne peut pas prendre ce qui nous plaît dans l'enseignement de Jésus tout en laissant de côté ce qui est au cœur de son œuvre et que Marc s'apprête à dévoiler dans les textes qui suivent. Sa souffrance, sa mort en sacrifice pour les pécheurs, sa résurrection pour inaugurer une vie nouvelle. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement l'acclamer quand tout va bien, c'est aussi le suivre sur le chemin de la croix. Reconnaître en Jésus le Messie, eh ben ça implique de se reconnaître pécheur. Ça implique de reconnaître notre besoin de lui. De reconnaître notre besoin du pardon de Dieu. Et de reconnaître que c'est Jésus et pas un autre que Dieu a envoyé comme Messie, comme Sauveur. Difficile d'affirmer cela dans le contexte d'aujourd'hui. C'est Jésus et pas un autre. C'est lui et personne d'autre qui donne tout son sens à la Bible, à la révélation de Dieu. Donc la foule avait raison d'acclamer Jésus comme roi, elle avait raison de crier « Sauve-nous !» et elle avait raison de voir en lui un libérateur. Mais était-elle, et sommes-nous aujourd'hui encore, prêts à ce que notre vie change du tout au tout, pour faire toute la place au roi serviteur? Je voudrais conclure par une dernière réflexion. On assiste dans ce texte à l'hommage rendu à Jésus par une foule qui est fière d'accompagner Jésus, fière de le suivre. Une foule qui, d'une façon ou d'une autre, même superficiellement, a envie que les gens sachent que Jésus est le Sauveur. Et au moins, ne serait-ce que pour ces quelques instants, les petits problèmes et les petits orgueils de chacun semblent s'effacer pour laisser toute la place à cette célébration de Jésus. On va chercher des branches dans les champs pour les mettre sur le chemin. On fait la fête. Un peu plus tard, nous dit l'évangile de Matthieu, des enfants chanteront encore dans la cour du temple. Hosanna, Hosanna. Même si la compréhension de la foule est certainement très incomplète. Et peut-être pour beaucoup d'entre eux, pas durable et pas solide. Malgré tout, la foule rend hommage à celui qui est venu les servir et qui est venu donner sa vie pour eux. Voilà ce que doit être la louange. La forme importe relativement peu, elle va varier selon les cultures et les contextes, mais l'attitude, en revanche, importe beaucoup. Et ce qui est décisif, me semble-t-il, c'est de cesser de se cramponner à notre identité propre, à notre fierté, pour trouver sa fierté et son identité dans la joie de connaître Jésus. Et j'aimerais que nous puissions être, et moi le premier, enfin, et moi aussi, je veux dire, des adorateurs de Jésus, si heureux de le connaître, si reconnaissants pour sa présence dans nos vies, que nous sommes prêts à nous effacer pour trouver une joie simple et authentique dans sa personne. Être fier de lui. Et il me semble que quand on se laisse saisir par la joie de servir Jésus, la joie de lui appartenir et de le servir, eh bien l'une des plus grandes bénédictions, c'est que le cynisme qui domine notre monde laisse peu à peu la place à l'espérance et à la joie, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Et lié à cela, eh bien, quand on trouve une joie simple dans l'appartenance à Jésus, eh bien, il me semble qu'on va s'inquiéter beaucoup moins de sa propre réputation. Et on va être surtout soucieux de la sienne. On trouve beaucoup moins d'intérêt aussi à se disputer ou à chercher à avancer ses propres intérêts lorsqu'on est saisi par la joie de connaître Jésus et le désir de le faire connaître. Parce que ce qui compte, c'est lui. C'était annoncé. Le roi a fait son entrée. Et s'il est rentré à Jérusalem pour y mourir, il en est ressorti une semaine plus tard, vivant pour toujours, et appelant des disciples de toutes les nations à le suivre. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi nous vivons. Amen.